Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour monsieur, ça veut dire quoi Asbrook ?
Le marais du lièvre.
Et c'est de quelle langue ?
C'est du flamand. À Nostaquet.
Ça veut dire quoi ?
À la prochaine.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette première de rendez-vous place du marché. Alors vous le savez, nous avons tous vécu une année compliquée, les gilets jaunes, puis les grèves et bien sûr le confinement à cause de ce satané virus. Sur France Inter, on s'est dit qu'il est temps pour nous de se retrouver, de se parler, de renouer le dialogue, de profiter du soleil. C'est ce qu'on vous propose tout l'été avec Aurélie Sfèze. Vous la retrouverez dès demain. Aurélie est à l'autre bout de la France, en Occitanie. Mais aujourd'hui, on vous accueille à Asbrook, le marais au lièvre. Donc en flamand, à 40 km de Lille, tout proche de la frontière belge. C'est une ville de 22 000 habitants, plutôt paisible, résidentielle avec de longues avenues, avec des maisons en briques rouges, plutôt jolies, mais qui ont tendance à toutes se ressembler. Ici, sur la place du marché d'Asbrook, il y a pas mal de monde, pas mal de commerçants, une cinquantaine. Et là, je vois un fleuriste, un poissonnier. Là, il y a un charcutier. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez vraiment de jolis produits.
Bah, c'est gentil, merci.
Qu'est-ce que vous pourriez nous faire goûter de très local ici ?
Donc, on fait un saucisson de Zegerskappel. Donc, c'est un pur porc pas fumé avec un poivre un peu plus soutenu.
D'accord, c'est voilà. Vraiment typique d'ici.
C'est notre spécialité, ouais.
D'accord, on peut goûter ?
Oui, il n'y a pas de souci.
Très bien. Merci beaucoup, bonne journée.
De rien, bonne journée. Au revoir.
C'est très très bon. Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
Alors, juste en face de nous, de l'autre côté de la rue, l'hôtel de ville, alors pas la mairie classique avec son beffroi, mais un édifice qui ressemble à l'Assemblée nationale avec ses 12 colonnes. Alors hier, il y a eu des élections, un deuxième tour pour les municipales. Résultat, un nouveau maire d'hiver droite a été élu, Valentin Belval, 28 ans seulement. Nous revenons là au marché où on est en train d'avancer. Pour retrouver nos invités, on rencontrera un directeur d'EHPAD, un groupe de musique traditionnelle. On fera la connaissance d'un jeune patron de 27 ans. On ira aussi voir un gang de motards un peu spécial. Et bien sûr, à un moment, on prendra l'apéro autour d'une bière haut de gamme. Celui qui la brasse viendra nous la présenter. Mais avant tout ça, on a rendez-vous avec Pépé Lema. Bonjour Pépé Lema.
Bonjour, bienvenue sur le marché d'Asbrook.
Merci beaucoup, mais vous êtes au téléphone là, vous êtes avec qui ?
Eh ben, je suis au téléphone parce que je vous écoute.
Ah d'accord.
Voilà, je vous écoute.
Vous m'avez fait peur. On va le dire simplement, ici, Pépé Lema, vous êtes une institution, une star, je finis ma bouchée. Vous avez tenu plusieurs restaurants, maintenant vous êtes chroniqueuse culinaire chez nos amis de France Bleu Nord. C'est pas compliqué, ici tout le monde vous adore. Quel est votre secret ?
Eh ben mon secret, c'est d'aller vers les gens, de rester simple, authentique, et l'authenticité, ça paye.
Alors, comme vous êtes notre première invitée de cette nouvelle émission, vous êtes un peu notre marraine. À ce titre,
quel
je vous
bonheur.
Laisse. Ah, c'est un grand plaisir pour nous. À ce titre, je vous laisse donner le coup d'envoi. Alors, il paraît que vous avez même une expression en patois pour ça, et qui veut dire c'est parti. Allez-y, donnez le coup d'envoi.
Alors, donnez le coup d'envoi. Alors, 3, 2, 1.
Voilà, allez c'est parti, rendez-vous place du marché à Asbrook. C'est une émission réalisée par Violaine Ballet, préparée par Irène Menahem. Et pour la programmation musicale, c'est l'ami Joe Bacar. Il a choisi pour nous un morceau que j'écoute en boucle, je l'adore. Un titre qui nous met plein de soleil dans les oreilles, M avec Croix au printemps.
Te souviens-tu du temps de nos confinements ? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Simplement qu'il y avait là devant solutions à nos questionnements. Reprends l'amour comme on croit au printemps. Reprends la vie comme on croit aux enfants. Reprends chacun. J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
Nous sommes de retour au marché de Hasbrouck dans le Nord. Vous le savez, France Inter entame aujourd'hui son tour de France à la rencontre des Français. Avec nous, l'une des figures de la région, Pépé Lemage. J'adore vos lunettes, Pépé.
Et oui, elles sont rouges.
Aux couleurs de France Inter. Alors, ce marché ici à Hasbrouck, vous le connaissez bien?
Ah ben, je connais très très bien le marché de d'Hasbrouck, puisque j'ai vécu aussi également à Hasbrouck. J'avais l'auberge de la Creule, hein, dans une zone d'activité assez importante. Et puis le marché, j'adore le marché. Pourquoi? Ben, parce qu'on y rencontre beaucoup de monde, des gens que l'on peut partager. Le marché, c'est économique. C'est des, on achète des produits authentiques, comme par exemple ici, ben, j'ai rencontré mon ami Yves Dardenne, là. Ami, c'est un ami de marché, bien sûr.
Bonjour.
Voilà, oui, marché bonjour. Producteur de Gonnehem. Alors je lui dis, comment définis-tu ta fonction marché producteur, c'est quoi? Alors il faut lui demander.
Bah, c'est quoi alors?
Un maraîcher producteur, c'est un maraîcher qui produit. Hein, c'est pas quelqu'un qui achète des produits pour les revendre, comme par exemple en ce moment, pour nous c'est un peu la mort de saison, les vieux légumes sont plus là, les nouveaux arrivent à peine. Sur mon étal, il n'y a pas grand-chose en nouveaux légumes. Donc j'ai pas, je revends pas. Moi, je produis, je vends ce que moi, je produis. Donc, je fais les marchés et j'ai aussi une AMAP sur l'île, une association de maintien d'agriculture paysanne. C'est un groupe de consommateurs qui ont choisi un producteur pour ses pratiques saines, on va dire.
Il y a beaucoup de clients.
Alors, sur l'île, j'ai 84 clients, l'île et l'Ambersart. Ah ouais. On a deux groupes. Donc, un groupe le jeudi soir de 18h45 à 19h45 et un groupe à l'Ambersart le mercredi soir de 18h15 à 19h15.
Et ça vous permet de bien vivre?
Et ça m'assure le SMIC, on va dire, ces deux groupes-là. Mais moi, je travaille avec ma femme et mon fils. Donc, on est obligé de faire des marchés à côté pour avoir un salaire, un SMIC pour nous trois, quoi, si vous voulez.
Merci, on vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Pépé, je vous propose qu'on avance là dans le marché. On va aller rejoindre nos autres invités là qui nous attendent sur la terrasse du café. Vous, Pépé, qu'est-ce qu'on trouve dans un marché typique du Nord?
Eh bien, déjà, on trouve dans un marché typique les produits de saison. Hein. Par exemple, ici, nous étions avec Yves. C'était les premiers choux-fleurs, hein, les premières têtes d'ail, parce que vous savez qu'on est quand même le pays de l'ail, l'ail d'Arleux, l'ail de Lacon. Ouais. Les premières têtes d'ail fraîches, ben, c'est sur les étals et ainsi de suite.
C'est fort ça, l'ail d'ici?
Ah ben, l'ail, c'est une tradition très 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 importante. Il faut savoir que l'ail, la fête de d'Arleux. Avec l'ail de Lacon, label rouge et ainsi de suite. C'est plus de 200 producteurs d'ail et qu'on vend de l'ail d'Arleux dans toute la France.
D'accord. Alors faites attention, on est en train de traverser là. On rejoint le café pour rejoindre nos invités. Là, on les voit. Alors là, on est au café La Sbire. On va vite aller voir avant. On va passer commande.
Ah bah,
vous avez soif ou pas?
Ah bah, moi je vais me prendre un petit café, vous savez, c'est de tradition. Hein.
Bon, on va aller voir, on va
passer. On en fait jusqu'au midi. Hein.
Alors là, on rentre dans le café, c'est un café typique du Nord. On est à La Sbire Café. Bonjour.
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 Vous êtes la patronne?
Oui, c'est ça.
D'accord, vous avez vous prénommez comment?
Leclerc Hélène.
D'accord, vous êtes ici depuis longtemps?
6 ans.
6 ans? D'accord, ça marche bien ici ou pas?
Impeccable.
D'accord. Est-ce qu'on peut passer une petite commande, s'il vous plaît?
Oui, je vous écoute.
Est-ce qu'on peut avoir 2 cafés et 2 limonades?
D'accord.
Merci, à tout à l'heure. Alors là, on va rejoindre nos 2 invités qui nous attendent à la terrasse. Là, voilà, on est en plein soleil. Bonjour, Nicolas Lee, donc. Pépé, je vous présente Nicolas Lee.
Bonjour, enchanté.
Un jeune dynamique.
Et ainsi que David Danel, qui est directeur d'un EHPAD. Bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour, bonjour, David.
On peut pas trop se serrer la main. Il y a aussi, tout à l'heure, on recevra Mathieu Le Seine, qui nous parlera de sa bière.
Ah, vous allez voir, c'est une bière excellente, avec du houblon frais. C'est une bière qui a d'ailleurs été médaillée il y a 2 ans, une des meilleures bières du monde. C'est pas n'importe qui, la brasserie du Pays Flamand, attention.
Alors, Pépé, moi j'ai envie qu'on parle de vous.
J'aime pas qu'on parle de moi.
Il va falloir vous faire violence un peu.
Je préfère parler des autres.
Au fait, d'abord, pourquoi Pépé?
Alors Pépé, j'ai été élevée par ma grand-mère Marguerite dans un petit village à Quatenières, proche de Cambrai, la ville de la bêtise. Et j'étais une belle petite poupée, une petite pépette. Et mon surnom Pépé est resté parce que ma grand-mère n'aimait pas mon prénom.
D'accord. Et tout le monde vous appelait Pépé, même à l'école?
Même à l'école, on m'appelait Pépé parce que si jamais on me disait René, ça voulait dire qu'on ne m'aimait pas. Et ça voulait dire surtout que je pleurais, j'étais triste comme tout, c'était Pépé. Alors j'étais la seule qu'on appelait par le surnom.
D'accord. Et on m'avait dit que parfois les gens qui voulaient vous être méchants avec vous, ils vous appelaient par votre vrai prénom.
Oui, alors mon prénom, il m'appelait par mon vrai prénom. Alors ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que on n'était pas d'accord avec moi, qu'on ne m'aimait pas. Et en plus, je m'appelais mon nom, mon vrai nom, c'est Le plus loin MAT. On m'appelait Le Bateau Bateau. J'avais tout pour plaire.
Alors là, on est dans le Nord. Vous, ça représente quoi, ce département, cette région?
Alors, le Nord-Pas-de-Calais, la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, n'oublions pas, nous sommes dans les Hauts-de-France.
Ça a changé.
Et puis, je pense que c'est un nom magnifique parce que ça représente... On a été trop longtemps dans le bas. On a été trop longtemps à nous noircir le paysage. C'est vrai qu'on était un pays minier. C'est vrai qu'on avait des sites, des corons, tout ça, qui pouvaient peut-être laisser à prétendre la misère, le misérabilisme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout ça, c'est tous ces gens, c'était des travailleurs. On a des super entreprises, on a des super métiers dans le Nord. Et je dis bien comme Danny Boone y disait, c'était Quan Merat qui disait ça. Quand on y vient, on pleure pour y venir, mais une fois qu'il faut repartir, on y braie. Et ben, je peux vous dire que moi, la région, c'est super.
Et justement, vous parlez de Bienvenue chez les Ch'tis, qui est sorti en 2008, qui a fait 20 millions d'entrées. Ce film, il a changé quoi pour les habitants de la région?
Ben, je pense que ça a tout changé. Vous vous rendez compte, un film aussi prenant, aussi important. Bon, il y a le côté caricatural de voir quelquefois qu'on va nous traiter de comme la bande de consanguins ou ainsi de suite, que je ne peux pas supporter, parce que ce n'est pas vrai. C'est quelque chose que c'est vraiment des travailleurs. Et ce qui a changé avec ce film, c'est qu'on nous a reconnus. La reconnaissance du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, du savoir-faire, du savoir-plaire aussi, parce que nous plaisons beaucoup.
Vous parliez de ces jeunes patrons, de ces jeunes chefs d'entreprise. Bah justement, on en a un avec nous, c'est Nicolas Lee. Je m'emmêle les pinceaux parce qu'on a le même nom. Et on va mettre les choses au clair, on n'a aucun lien de parenté. Vous avez des origines vietnamiennes?
Éloignées, oui.
Ouais, bah d'ailleurs, éloigné. Je voulais vous demander, Big Night in Big Hong.
Ah non, désolé.
Vous avez compris ou pas, non?
Non.
Je vous ai demandé si vous parliez vietnamien. Bon, j'ai compris que vous ne parliez pas. vous êtes fier d'être de la région. Vous êtes né ici à Hazebrouck.
Tout à fait. Bonjour à tous déjà. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité ici.
Avec plaisir.
Alors, moi je suis né sur Hazebrouck. J'ai fait mes études sur Hazebrouck. Je suis juste absenté parce que j'ai fait les Compagnons du Devoir où j'ai dû m'absenter pour faire mon tour de France. Mais sinon, je suis tout de suite revenu.
C'est important pour vous.
Tout à fait, ouais.
C'est vraiment là, vraiment ici, vos origines, vos racines.
Tout à fait. Il y a mes amis, ma famille. Hazebrouck, c'est vraiment une ville très accueillante, très sympa. Ouais. Enfin, on s'y plaît. Vraiment, on s'y plaît.
Et d'ailleurs, Nicolas, je suis arrivé hier à Hazebrouck. Alors, j'ai flâné dans les rues de la ville, car ici, il faut dire, c'est assez calme, hein, surtout un dimanche. Et à un moment, j'ai été attiré par des bruits étranges.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Bah là on est en train de faire une petite session de skate tranquille.
Il a l'air tout neuf ce skatepark.
Il a ouvert il y a un mois à peu près.
Ouais, 2-3 semaines je dirais ouais.
Le skatepark c'est vraiment un gros plus parce que ça a évité aux jeunes de traîner tout le temps dans les rues ou de se rejoindre toujours au même endroit.
Ça génère pas des accidents comme il y a du monde là? Vous rentrez pas dedans?
Mais ça arrive malheureusement de temps à autre. Je sais que j'ai un ami qui s'est ouvert l'arcade, donc si c'est vraiment grave, du coup on appelle les pompes. Enfin, souvent les pompiers viennent ici pour la personne qui s'est fait mal, quoi. Mais après, mon pote, il est là si vous voulez, hein. Celui qui s'est fait mal.
Vas-y, appelle-le, ouais.
Léo!
Ah, j'ai voulu board slide et je suis tombé en arrière et je me suis ouvert l'arcade.
Fais voir laquelle?
C'est l'arcade gauche.
Ah oui, oui, j'ai cicatrice quand même.
Ouais, 3 points de suture.
Et là, t'es revenu, là.
Faut pas avoir peur.
Le skatepark, il ferme à 21h.
Pourquoi?
Ça fait trop de bruit sinon.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Il y a les vieux à côté, le skatepark il doit fermer à 21h, on se fait chier après, il y a encore du soleil, j'en ai marre moi. Moi je sors jusqu'à 4h30 du matin, j'aimerais bien être là avec des petites lampes, là tout ça, skater encore et tout, c'est bien.
Vous êtes heureux vous à Hazebrouck?
Il y a tout ce qu'il faut à Hazebrouck. Hein. Il y a la pétanque, le Ricard et les copains.
Comment vous trouvez ça, Elodie, la musique?
Très bien, très bien.
C'était Black Puma avec Old Man. Dites-moi, ici on est dans la friterie hazebrouckoise. Il paraît que vous avez les meilleures frites de la ville.
Ah oui, oui. Elles sont très bonnes, vous verrez.
Votre baraque à frites, elle est là depuis combien de temps?
32 ans.
32 ans ?
Ouais.
Bon, on viendra goûter tout à l'heure.
D'accord, très bien.
Ok.
À
tout à l'heure, merci beaucoup. Le temps de retrouver le groupe de musique Smitlap. Bonjour Marie et Patrice Heugebar.
Bonjour, ça va ?
Bonjour. Alors là, vous avez vos instruments. Vous, Patrice, je vois bien, hein, c'est un accordéon.
Ah, on peut pas être plus accordéon que ça, ouais.
Vous pouvez nous jouer une petite note ? Alors vous, Marie, là, vous avez un instrument que moi, je ne connais pas bien. C'est quoi ? Ça ressemble à un gros violon avec une manivelle, hein, c'est ça ?
C'est une vielle à roues.
Une
vielle à roues.
Une vielle à roues, il faut bien l'articuler.
Vielle, bien.
Oui, les vieilles à roues, c'est à Lourdes, et les vielles à roues, c'est de la musique. Voilà.
Vous appelez les Smitlap, ça veut dire quoi, les Smitlap ?
Smitlap, c'est la fronde. En fait, on est en pays flamand ici, on utilise pour les noms de groupe, à une époque, on utilisait beaucoup de noms de choses qui servaient à acheter quelque chose. Il y a eu Claquebus, c'était la Sarbacane en Sureau, et nous, on a pris Smitlap, parce que ça sonnait bien, ça se retient bien, c'est rigolo, et puis... Pour se souvenir vraiment pourquoi, il faudrait remonter à 1983, donc c'est un peu vieux. Mais voilà, parce que la fronde, ça va bien.
D'accord.
Ça va bien.
Marie, vous voulez bien nous jouer une petite note de votre vielle à roue, juste vous. Et là, j'aimerais bien qu'on puisse écouter un petit duo.
On va vous faire un air de carillon, voilà.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci. Vous nous avez dit que c'est quoi comme morceau ?
C'est un air de carillon. C'est le carillon de Douai. C'est un thème. C'est ce qui fait les musiques traditionnelles un peu partout. Des thèmes connus, des musiques qu'on entend, et les musiciens s'y réapproprient en général avec l'idée de faire danser ou faire un peu la fête. Mmh. Voilà. Et comme il y a beaucoup de carillons ici, c'est vraiment porteur. Voilà.
La vielle à roue, on connaît moins quand même. Hein,
on connaît moins parce que c'est un instrument bizarre qui, à un moment donné, n'était plus fabriqué. Là, c'est une vieille récente qui a une trentaine d'années presque. Et on a maintenant beaucoup de vielles qui sont fabriquées, notamment dans le centre de la France, qui permettent de faire, par exemple, de la musique électro, de faire des choses branchées sur des synthétiseurs, des expandeurs, des boucles. Et c'est une musique un peu à côté, un petit peu en marge. On peut l'assimiler à la grande famille des musiques actuelles où on sait tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne ne veut le dire. Quoi. Mais donc, il y a de la vielle électroacoustique maintenant qui existe avec synthétiseur, mécanique à main d'huile, roulement à billes, enfin tout ce qu'il faut.
C'est étrange quand même, non ?
Avant, c'était des pièces de bois qui s'articulaient entre elles et qui pouvaient donner cette idée d'un... On nous disait que les joueurs de vielle à roue passaient la moitié de leur vie à s'accorder, l'autre moitié à jouer. Maintenant, ils ont un peu plus de temps pour jouer. Voilà.
Mais il paraît que la vielle à roue, on disait que c'était l'instrument du diable.
Ah oui, alors, sans doute, parce qu'à un moment donné, dans les églises, qui servaient à la fois de salle des fêtes à l'époque, c'était l'instrument qui faisait danser. Et puis aussi le fameux triptyque de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices, où, pour évoquer l'enfer, le musicien qui est dans le triptyque sur la droite, c'est la vielle. Voilà, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça joue.
Et il paraît qu'on voit des vielles dans certaines œuvres du peintre Bruegel.
Peter Bruegel, on a une grande expo au musée départemental de Cassel l'année dernière, autour de fêtes et kermesses, et sur tous les tableaux de Bruegel, apparaît à un moment donné des cornemuses et parfois les vielles. Ils sont souvent cachés sous le manteau, et c'est vraiment la vielle, ça a été vraiment à un moment donné un symbole pour tout ce qui était... musique un peu à part, un peu sur le côté. Il y a beaucoup de portraits de vielleux qui sont des mendiants. Il y en a à Bergue, au musée du Mont-Piété à Bergue, où le vielleur au chien, c'est Georges Latour qui a peint ça. Il y en a à Remiremont, à Bergue, à Nancy, dans plusieurs musées. Voilà.
Il paraît même qu'on voit une vielle dans un album d'Astérix.
Non, Uderzo a repris les Noces paysannes de Bruegel, dans lesquelles on voyait une cornemuse, et bizarrement, il a enlevé la cornemuse, mais il a laissé le sanglier. Et puis tous les Flamands, c'est Astérix chez les Belges, voilà.
D'accord. En tout cas, merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose ?
Bon, pourquoi pas.
Parce que nous, on va aller retourner à la terrasse.
Attention, traversant la rue.
Ouais, on va essayer. Merci. Là, on retourne au café rejoindre Pépé Lemas, Nicolas Lee et surtout David Danel. Il est le directeur de l'EHPAD de Seilly-sur-l'Allier, à 25 km d'Hazebrouck. Alors, il est responsable de cet établissement depuis une dizaine d'années. C'est un établissement, un EHPAD privé non lucratif pour l'association La Vie Active. Rebonjour à tous. Ça va? Vous êtes bien installés? Vous avez de quoi boire?
Oui.
Tout le monde est bien? David Danel, on sort d'une période difficile avec le coronavirus. Ce sont surtout les personnes âgées qui ont été touchées. Comment ça s'est passé chez vous dans votre EHPAD?
Alors, à l'EHPAD de Seilly-sur-l'Allier de l'association La Vie Active, on a tout de suite eu un personnel, on va dire, qui s'est mis à être présent. Voilà, aucune absence, on va dire, à constater. Ensuite, on a eu un personnel innovant, un personnel polyvalent, et c'est ce qui a fait que cette crise, on l'a passée, certes avec la boule au ventre, mais on a passé cette crise, on va dire, avec satisfaction. Aujourd'hui, voilà, on a ce recul et on est quand même fiers du travail que l'on a pu faire pendant ces 3 mois, on va dire, de confinement et essayer de garder le lien entre famille et nos résidents.
Combien de pensionnaires ?
80 résidents.
D'accord.
Ouais.
Pépé Lemas, en préparant l'émission, vous m'avez dit qu'ici, on a un lien particulier avec les personnes âgées.
On a un lien particulier parce qu'on aime les personnes âgées. Il ne faut pas oublier qu'une personne âgée a été bébé, enfant, adolescent, est devenue papa, maman et ainsi de suite. Et donc, la personne âgée, elle a le droit à tout le respect de cette vie qui a apporté beaucoup aux familles, à France. Et dans les EHPAD, que je connais très très bien, j'admire la façon dont les personnes âgées sont traitées, avec de l'animation et tout ça, parce que moi j'aime les personnes âgées, j'aime les enfants comme j'aime les personnes âgées.
David Danel, vous avez récemment tiré la sonnette d'alarme sur les conditions d'accueil de vos pensionnaires. D'une façon assez originale, vous avez réalisé un film décalé sur un ton humoristique. Il y a des références aux gendarmes de Saint-Tropez, même à Rambo. D'ailleurs, votre film est à voir sur le site de Rendez-vous Place du Marché. Comment vous est venue l'idée de ce film ?
Alors l'idée est venue, on va dire, du fameux steak saignant. On va dire, en EHPAD, on pense toujours que le cuisinier ne sait pas cuisiner, parce que voilà, si le résident souhaite bien avoir un steak saignant, on peut pas lui servir. Les normes et les contraintes sanitaires nous imposent de cuire un steak à 63 degrés à cœur.
Pour quelle raison ?
Donc normes sanitaires, éviter toute contamination, et donc il y a une prise de température qui est faite, et un steak cuit à 63 degrés à cœur, malheureusement, il est plus saignant. Donc on n'a pas la satisfaction de servir ce steak parce qu'il n'est pas désiré par le résident comme il le souhaitait, saignant. Donc c'est à partir de là qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de thématiques comme ça, avec les normes et contraintes qui nous sont, on va dire, à jouer tous les jours avec.
Mais ça veut dire que ces normes sont au détriment du bien-être des pensionnaires ?
À certains moments, oui. Donc, bien souvent, on nous dit, voilà, c'est pour la sécurité du résident. Donc, en effet, il y a des normes qui sont, on va dire, à prendre. Et justement, parce que c'est la sécurité du résident, et ça, c'est une priorité. Par contre, après, à quel détriment ? Si c'est au détriment de ne plus pouvoir manger son steak saignant, c'est une problématique. Par contre, on va dire, la famille prend son proche, va au restaurant, et là, la personne peut manger un steak tartare parce qu'elle est plus dans l'enceinte de l'établissement. Donc, c'est bien des paradoxes, on va dire, qui sont, quel est le texte le plus fort entre le texte des services vétérinaires et le texte de la loi 2002 qui nous pilote, c'est-à-dire respect des besoins et attentes du résident.
Alors dans cette vidéo que vous avez réalisée sur un ton humoristique, on y voit les pensionnaires, le personnel, c'est eux qui jouent dans le film. Vous y montrez notamment le manque de moyens.
Oui. Donc par exemple la séquence, on va dire, avec les soignants, c'est quand même une réalité. Ça a été tourné sur le ton d'humour, mais c'est une réalité. Si nous avons en présence dans un service 2 soignants et 14 résidents, à un moment donné, si les soignants sont avec un résident pour un moment de la toilette, la sonnette peut sonner à côté, j'ai plus de soignants pour cette chambre. Donc là la sonnette peut sonner 5 minutes, mais on met des créneaux pour aller voir l'urgence. Donc il faut abandonner sa tâche, partir dans la chambre d'à côté, sécuriser la situation si elle est à sécuriser, et repartir à la tâche initiale.
Ouais.
Et on va dire très concrètement, lorsque 2 personnes sont accompagnées au même instant, ne serait-ce que d'aller aux toilettes par exemple. On donne priorité à qui lorsqu'on n'a plus de personnel à mettre au bord du résident.
Il y a un rapport officiel qui a été publié très récemment qui préconisait une soixantaine de personnels soignants pour 100 pensionnaires. Chez vous, comment ça se passe?
Alors chez nous, on va dire, nous n'avons pas ce ratio de 60% de personnel soignant, donc il me faudrait 48 soignants. Et soignants pris en charge aussi par, je vais dire, la collectivité, par l'État, par les fonds publics. Là, aujourd'hui, on parle des EHPAD où ils coûtent 2000 euros, mais c'est parce qu'il y a un glissement de portefeuille qui s'est fait à l'époque, dans les années 2000-2002, avec la réforme de tarification, qui fait que petit à petit, on a fait payer le résident au lieu d'avoir une prise en charge, on va dire, sécurité sociale ou cinquième risque de sécurité sociale.
Ouais. Pour compenser ce manque de moyens, ça veut dire que chacun travaille plus. Vous, par exemple, comment ça se passe pour vous?
Alors, chez nous, on va dire, j'ai un peu la chance d'avoir un personnel investi, un personnel qui va savoir, on va dire, faire les efforts au détriment de sa santé. Parce que, je vais dire, depuis que je suis sur cet établissement en 2010, je constate quand même assez régulièrement des licenciements pour inaptitude physique, donc qui est, on va dire, certes une variable d'ajustement, mais qui est navrante dans ce pays où on veut rendre tout accessible. Et là, malheureusement, pour le monde du handicap, on a qu'à regarder les rapports entre le BTP et les accidents que l'on retrouve dans notre secteur médico-social, notamment EHPAD. Et là, on voit que dans nos EHPAD, on est producteur d'accidents de travail.
Ah oui. Et dans quel état d'esprit se trouve votre personnel?
Alors il est partagé, c'est-à-dire que à un moment donné il s'investit parce que il se sent, on va dire, l'âme de devoir exécuter une mission. Et à un moment donné, il se retrouve malheureusement en difficulté et il n'arrive pas à accomplir cette mission. Il se sent jugé, notamment à travers toutes les émissions qui ont pu passer sur les EHPAD, où on montre que les EHPAD, c'est vraiment, on va dire, un milieu sombre, etc. Alors que dans les EHPAD, il n'y a pas que ces EHPAD sombres, bien au contraire. Et la majorité, on n'en parle pas assez, c'est les EHPAD où il y a de la vie, où ça bouge. Et par contre, c'est là où aussi, dans la majorité des EHPAD, on manque de moyens.
Et vous, par exemple, vous travaillez combien d'heures par semaine?
Je veux dire, très aléatoire, là, pendant la crise Covid, c'est, on va dire, c'était du non-stop, c'était du lundi au dimanche, d'astreinte, de garde, pour pouvoir répondre aux équipes aussi bien de nuit que week-end. J'ai des cadres et des non-cadres qui se sont tenus à disposition durant toute cette crise, par exemple. Après, on va dire, en temps classique, si on veut faire une bonne semaine, on est entre 40 et 50 heures, pour dire, de faire le boulot. Et, entre guillemets, voilà, c'est aussi être de dispo pour les équipes, pour les appels téléphoniques.
Ça gagne bien, un directeur d'EHPAD?
À ce jour, je dirais non. Ouais, comme les soignants.
Est-ce que vous donneriez votre salaire?
Alors, un débutant tournerait, je vais dire, aux environs de 2800 euros. Aujourd'hui, avec 20 ans d'ancienneté, je suis à 3600 euros.
En net?
Net.
Ouais.
Oui, net.
Voilà, un salaire qui n'est pas volé.
Voilà.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, David Danel. Je dois vous laisser, car j'ai un rendez-vous avec un gang.
Merci pour l'invitation.
Est-ce que vous voyez les Hells Angels? Vous voyez de quoi je parle? C'est le motard.
C'est derrière, oui.
Ces motards qui chevauchent d'énormes motos. Eh bien, ici, il y a presque la même chose. On les entend, ils arrivent. On les entend. Oula, 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 hop, 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 hop. Là. Bonjour. Est-ce que vous pouvez couper les moteurs? Bonjour. Alors vous êtes le gang des mobilettes des Hauts-de-France.
Tout à fait. Mobilettes de France et Moubou d'en haut.
Les
Moubou d'en haut.
D'accord. Vous, c'est quoi votre prénom?
C'est Gilbert.
D'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre bécane?
Oui, tout à fait. C'est une Cazenave de 1955 et sa particularité à la moteur VAP qui était fabriquée ici à Hasbrouck.
Ah ouais, 1955. Voilà. Et vous, monsieur, votre prénom et c'est quoi votre mobilette?
Oui, bonjour, moi c'est Christophe, donc j'ai une moto bécane 88, année 1959.
D'accord. Et vous?
Oui, bonjour, c'est Thomas. Bah, moi c'est une Peugeot 104 de 1970.
Ah ouais, elles sont toutes plus vieilles que moi. Là, vous êtes venu à combien, là? Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait du bruit lorsque vous arrivez comme
oui,
ça.
Oui, bien hein. Sûr, oui.
Gilbert, dites-nous, comment ça a commencé, cette passion?
Ben, nous, déjà, quand on était jeunes, à 14 ans, on avait une mobilette.
C'était là, vous avez quel âge, vous?
Là,
vous avez
j'ai 50 ans.
D'accord.
Et on est tous pareils, on a tous connu la mobilette quand on était jeunes. C'était notre moyen de locomotion, de liberté.
Ouais.
Et on l'a tous retrouvé, puis on fait des balades.
Mais elle appartenait à qui, la première mobilette sur laquelle vous êtes monté, par exemple?
Ah, c'était la mobilette de ma mère, une 103 Peugeot bébé. Et d'ailleurs, j'en ai racheté une, j'ai la même, à la maison.
Ah ouais?
Ouais.
Mais qu'est-ce qui vous plaît tant lorsque vous êtes sur cette mobilette?
C'est la liberté. On se retrouve comme quand on était jeune. C'est des petites balades tranquilles, on se rassemble, c'est super quoi.
Ouais. Et lorsque vous aviez 14 ans, c'était quoi cette liberté? C'était, vous faisiez quoi avec cette mobilette? Vous permettiez de faire quoi?
On allait en ville, on allait voir les filles, on faisait des balades, bah, bien sûr.
C'est pratique. C'était un moyen de s'évader, de sortir justement de la zone, de la maison.
Voilà, d'aller rejoindre les copains, faire des balades, tout ça.
Ouais, et qu'est-ce qu'ils en pensaient, vos parents?
Ben, les parents, tout le monde avait une mobilette dans le temps, dans les familles. Les parents, ils roulaient la mobilette déjà. Ouais. Tous les ouvriers, partout, c'était le moyen de locomotion, c'était la mobilette. Hein.
Mais eux, ils étaient d'accord pour que vous preniez
la mobilette? Oui, à 14 ans, oui, mais c'était la tradition. Hein.
Ouais. Et ici, les mobilettes, dans les Hauts-de-France, c'est une tradition parce que, par exemple, on en voit souvent dans les films de Bruno Dumont, comme La vie de Jésus.
Exemple type, sa mobilette 88, c'est l'usine à Saint-Quentin, l'usine Motobécane à Saint-Quentin, dans l'Aisne.
D'accord. Mais c'est que des gens de votre génération qui aiment les mobilettes?
Ah non, on a des jeunes, on a de tout. Des jeunes de 18, 17. Ben, le dernier, il est avec quel âge, le fils Cédric?
14 ans.
Il était avec nous à Paris, on a fait la balade à Paris.
Ah ouais? Vous avez fait combien de kilomètres?
On a fait 140 kilomètres à peu près. On est parti de Meaux, par les petites routes, parce que bien sûr, au recessionnal, on ne peut pas les prendre. Et puis après, on a traversé tout Paris. Et après, on est remonté à Meaux par les petites routes.
D'accord. Et quand vous êtes là, sur la bécane, là, vous montez à combien?
Ah, celle-là, elle monte qu'à 30 km/h. Celle-là, c'est que du plaisir, celle-là.
D'accord.
Sinon, des bécanes comme celle-là, c'est 80-85.
D'accord. Ouais, ça va pas hyper vite.
Ah, il y en a qui vont plus vite. Hein.
Ouais. Mais parce que le plaisir du motard, c'est de rouler vite, les cheveux dans le vent.
On est des motards aussi, c'est pour certains, mais là, c'est la mobilette. C'est pas le même plaisir.
Ouais, alors là, vous êtes venus nombreux, mais je remarque qu'il n'y a aucune fille. Hein.
Non, ils ont pas voulu venir.
Mais ça existe, c'est ouvert aux filles?
Oui, on a des copines, des gens qui viennent, oui.
D'accord, il y a des gangs de...
Bah nous, par exemple, les mobilettes de France, le 30 août, on fait une balade à Saint-Pervic.
Ouais.
Saint-Pervic, c'est un petit village où j'habite. On fait 70 km et on va être au moins 120 mobilettes.
Ouais.
Et en plus, j'en fais gagner une, je fais gagner une 103 SPX.
D'accord. Et là, il y aura des filles?
Ah ouais, bien sûr.
Ouais, il y a des groupes de filles?
Ouais, il y en a qui viennent de Boulogne, tout ça, partout. Et il y a un groupe de filles, une copine à moi, c'est les midinettes à mobilette.
Les midinettes à mobilette? Voilà. Bah faudra l'inviter la prochaine
présidente,
fois.
La présidente, c'est Lila
Pearl. Ouais. Et Gabriel, vous savez ce que je vais vous demander, là? Je vais vous demander de faire un tour.
Bien sûr.
C'est possible ou pas?
Bien sûr, tout est possible.
Alors, je fais dans les pas loin de 90 kilos. Hein.
Oui, mais c'est rien.
C'est rien, ça? Bah, je prends un casque. Je vais passer le micro à Alexandre, notre technicien de choc, le temps que je mette le casque, parce qu'il faut quand même faire attention.
Ouais, vous êtes équipé. Hein.
À la sécurité. Bah, alors, je monte avec qui, alors?
Avec Jean-Yves.
Parce qu'il faut une bécane puissante. Hein. Je monte avec toi?
Oui.
Allez, là, on fait demi-tour sur la place. On va rejoindre la route. Vous voulez bien mettre un petit coup de klaxon? Voilà. Votre casque. Allez, c'est parti. On écoute Renaud parce que on est tous une bande de jeunes.
Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, où ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my girl.
C'était vraiment très sympa ce petit tour de mobilette autour du marché d'Hazebrouck, vraiment. Et on est revenu au café car c'est l'heure de l'apéro, toujours en compagnie de Pépé Lema, de Nicolas Ali, de David Danel. On a été rejoint par Mathieu Le Seine, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le cofondateur de la brasserie du Pays Flamand et vous n'êtes pas venu les mains vides.
Non, j'ai ramené quelques bières. Hein. Vous savez que la bière dans le coin, c'est une vraie tradition ancrée. Donc voilà, je vous ai ramené quelques bonnes choses.
Alors, vous savez, en principe, on dit toujours qu'il faut boire avec modération. Mais vous, Mathieu, vous avez une version plus poétique. Quelle est-elle ?
Eh bien écoutez, je vous propose qu'une bière fabriquée avec passion, ce qui est le cas, se déguste avec sagesse.
Ah bah voilà, un beau dicton, ça nous change un peu. Alors, présentez-nous, c'est quoi ?
Alors, je vais vous proposer une Wildeleeuw, qui veut dire lion sauvage en flamand. Vous savez que la langue flamande est encore bien présente. Et donc, on a gardé le flamand pour nommer nos bières, enfin une partie d'entre elles. Et là, je vous propose une bière vieillie, puisqu'en fait, c'est vraiment la bière traditionnelle des campagnes flamandes. Ces bières qui étaient stockées l'hiver, en fin de compte, dans des barriques en bois. Voilà.
Mais c'est une bière haut de gamme ou
Alors, maintenant, c'est vrai que avant, c'était des bières de soif plutôt. Là, on est sur une bière apéritive et une bière qui va se retrouver aussi sur les grandes tables, des bières gastronomiques au même titre que peuvent l'être des vins.
Voilà. Là, c'est une bouteille qui fait quelle
Alors là, c'est une bouteille de 75 centilitres. Hein,
d'accord. Vous en avez des plus petites ou
Oui, mais on n'en vend pas beaucoup. Les 33, c'est moins ici dans le Nord. On est plutôt sur du 75. Non pas qu'on boive une bouteille entière, hein, je vous rassure. Mais sauf que chez nous, fondamentalement, la bière se partage. C'est un moment de convivialité. Donc, on sert une bière 75 centilitres avec les copains. Et c'est comme ça que la bière se déguste chez nous. C'est accompagné et plutôt bien accompagné.
Et une bouteille comme ça, vous la vendez combien ça vaut combien?
Alors, bon, cette bière-là, elle est dite gastronomique. Donc, elle est un peu plus chère que les autres. On est sur entre 10 et 12 euros la bouteille.
Mais on la trouve dans des restaurants gastronomiques.
Exactement, ouais, tout à fait, parce qu'on va savoir faire l'entrée, le plat, le dessert. On va vraiment pouvoir accompagner. Vous avez vu mes verres, hein, ce sont plutôt des verres à vin également, puisqu'en fait on veut redorer un peu le blason, complètement même le blason de la bière sur les grandes tables.
Eh ben on va goûter.
Allez.
Vous la connaissez bien cette bière Pépé Lema?
Oui, je la connais très très bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup la Nostoquet. Alors la Nostoquet qui est une bière blonde. Très fraîche, très houblonnée.
Ça veut dire quoi, Nostoquet ?
Nostoquet, ben, ça veut dire à bientôt, à la revoyure, si on peut regarder, on peut parler comme ça aussi.
C'est ça.
Hein, ah oui, à la prochaine, il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier.
À la prochaine, à la revoyure.
Alors, on va goûter.
Allez-y. Alors, bon, ça se sent, hein, le bouquet est très... Le bouquet est très important. Hein.
Ah bah ça sent déjà très très bon.
Là on est sur une bière triple traditionnelle de chez nous qu'on a fait vieillir dans des barriques de Bourgogne blanc. Voilà.
Mais en fait, c'est la même technique pour le vin que pour le vin.
Alors la fermentation. Alors on n'a pas bien sûr la base c'est le malt, hein, le sucre du malt qu'on va venir fermenter. On y rajoute du houblon et la levure fait le reste. Alors c'est pas les mêmes levures que dans le vin, mais on a notre propre souche de levure.
Vous avez goûté Nicolas Lee?
Oui, très bonne. Je confirme.
Et vous, David Danel?
Je n'en bois jamais.
Vous ne buvez pas d'alcool? En fait, vous n'êtes pas un vrai.
J'aurais dû prendre mes parents.
C'est une tradition ici. Il paraît qu'on faisait boire les enfants.
Oui, alors ça, il ne faut pas le dire trop fort.
Dans les biberons.
Alors dans les biberons peut-être pas, mais en tout cas je peux vous dire qu'on en servait dans les cantines, puisqu'on n'avait pas trop confiance en la potabilité de l'eau courante. Et donc, jusqu'en 1956, donc c'est relativement récent, il était autorisé de servir de la bière aux enfants jusque 14 ans. Ça faisait partie aussi des traditions. Mes grands-parents ont connu ça, mes parents ont connu ça.
Parce qu'on pensait que l'eau,
Elle était peut-être pas potable. Donc, il faut savoir qu'avec la bière, alors c'était des bières légères. Hein, je vous rassure. Là, on est en train de boire une bière assez avec 10 degrés d'alcool. À l'époque, c'était 2 degrés d'alcool. Mmh. Voilà.
Alors, Nicolas, vous avez repris une goutte ou pas?
Nicolas Vie, tout à fait.
Bon. Alors, Nicolas Vie, on a voulu vous inviter parce que vous êtes à la tête de la société L'Imagine, une entreprise spécialisée dans les métaux. Pour vous, le coronavirus, ça a été en quelque sorte une aubaine. Ça vous a permis de mettre au point une trouvaille qui s'est bien vendue. C'était quoi cette trouvaille?
C'était le distributeur de gel hydroalcoolique. Alors le système, la nouveauté, c'est que c'est un système à pédale, donc qui permet de ne plus toucher la bouteille. C'est aussi on a créé aussi le système pour qu'on ne puisse pas voler la bouteille en fait, avec un système de pâte à cadenas. Donc on est sur notre borne est tout en inox 304L. Donc en fait c'est un inox qui va à l'extérieur, qui ne roulera pas à l'extérieur en bord de mer ou autre. Il y aura jamais aucun souci.
Mais c'est un produit que vous avez imaginé exprès pendant le confinement.
Excuse-moi.
Pardon, parce qu'il y a un camion qui vient de passer. C'est un produit que vous avez inventé à l'occasion du confinement.
Tout à fait. J'ai vu que le téléphone ne sonnait plus. Clairement, j'ai eu une baisse d'activité. Mmh. Alors, comme on est 8, j'ai essayé de trouver une solution pour alimenter les salariés. D'accord. Donc là, c'était super. Ça, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne encore très très bien.
Vous êtes très riche maintenant ?
Pas encore, il faut encore que je travaille. Non, mais c'est vrai qu'on a sur le mois, on a doublé notre chiffre d'affaires, ouais.
Ah ouais.
Mais tout en étant super correct, parce qu'on est les mieux placés à l'heure d'aujourd'hui sur ce genre de procédé.
Nicolas Lee, vous n'avez que 27 ans, vous êtes déjà patron, vous avez 8 salariés, 7 ou 8 salariés ?
C'est ça, 8 salariés.
Vous avez commencé dans le garage de vos parents, dans un garage de 20 mètres carrés. Aujourd'hui, vous êtes dans vos locaux font 650 mètres carrés. Quel a été votre parcours? Comment vous êtes en arrivé là?
Alors, mon parcours. J'ai découvert le métier en fait de serrurier métallier. Donc, j'ai fait mon apprentissage chez les Compagnons du Devoir à Villeneuve-d'Ascq, en alternance. Ensuite, je suis parti sur le Tour de France. J'ai passé le grade d'aspirant. J'ai décidé de remonter dans le Nord pour passer un bac TCI, technicien chaudronnerie industrielle. De là, j'ai fait un petit peu d'intérim. J'ai passé mes licences TIG et ARC, ce sont des procédés de soudure. Et ensuite, j'ai ouvert ma société à l'âge de 23 ans.
À 23 ans, il y a 4 ans.
Ouais.
Mais on dit... Ah, attention, il y a les pompiers qui passent. Mais on entend toujours dire que c'est très dur d'entreprendre en France, qu'il y a trop d'administration, trop de taxes. Vous, comment ça s'est passé pour vous?
Ben, en fait, je pense que le plus important, c'est savoir s'entourer. À partir du moment où on sait s'entourer, on connaît les bonnes personnes, on peut être bien conseillé. Et de là, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. À partir du moment où on est mature et on veut juste, on a une envie, on est passionné que ce soit n'importe quel métier, hein. À partir du moment où on est passionné, je pense que le client le ressent. Et, parce que par exemple, moi, je suis assez jeune, mais je sais que voilà, même si je fais jeune, les clients ont confiance parce que je leur explique bien comment ça se déroule, etc. Quoi.
Vous avez des salariés plus âgés que vous ?
Oui, uniquement des salariés qui sont plus âgés.
Le plus vieux, il a quel âge ?
Il a, que je dise pas de bêtises, il doit avoir près de 40.
Ah ouais ? Et comment vous faites pour le manager ? C'est quoi votre méthode de management ?
Bah nous, en fait...
C'est par la peur ?
Non.
Moi, je fais ça, ça marche bien.
Non, j'ai essayé une autre technique, c'est-à-dire que je ne cache rien. Tout simplement les chiffres, le bilan. Je suis parti dans le principe où on est une super équipe, où je fais confiance à toute mon équipe. Donc je suis pas trop derrière. Ils savent tous bien travailler, donc ils sont autonomes, ils sont dans leur coin, ils travaillent, ils savent que voilà, je suis pas derrière, mais ça doit être fait pour telle date. Et voilà, on est assez carré en fait.
Vous les payez bien ou pas?
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, on est uniquement j'ai que des salariés qui sont bien qualifiés, qui sont très qualifiés.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Nicolas Lee. Dans Rendez-vous Place du Marché, on aime les traditions. Et ça sera le mot de la fin. À chaque 5 minutes avant la fin de l'émission, on jouera à ce jeu. D'après vous, ça veut dire quoi l'expression « ça m'espante » Est-ce que vous savez?
Ça m'espante.
Ça m'épate, mais pas ça m'exporte.
Non. Alors, vous l'avez entendu, petit clin d'œil à nos amis du jeu des 1000 euros. Alors, merci à Yann Paillet qui nous a prêté son précieux Glock and Speed et à Nicolas Stoufflet. Alors, vous, Pépé Lema, vous dites quoi? Alors, ça veut dire quoi, ça m'exporte, bah, cette expression dans le midi de la France?
Bah, ça m'épate. C'est formidable, ça m'épate.
Ah, mais vous êtes trop forte.
Non, c'est pas ça.
Si, c'est ça.
Oh, bah, j'ai gagné le gros lot, alors. Allez, vous avez le droit de revenir à Hasbrook, hein, la super belle ville, parce que vous n'avez pas encore vu les géants, vous n'avez pas encore vu le plus gros cornet de frites du monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je vous donne rendez-vous. Hein.
Mais on n'est pas encore parti. Hein. Il nous reste encore plusieurs jours dans votre belle région.
On va faire le tour des chapelles, comme on dit au carnaval.
Chez Capelle.
Vous savez, chez Capelle, demandez à Mathieu.
Ben, on verra ça quand on sera à Grande-Synthe. On nous a dit qu'il fallait absolument s'intéresser à ça.
À faire quelques chapelles, ben ça c'est indispensable. Si vous voulez repartir joyeux et heureux des Hauts-de-France, c'est comme ça qu'il faut faire.
Bon allez, pour terminer cette émission, ben, on continue à traquer un coup.
Allez.
Avec la bonne
allez,
bière de Mathieu Le Seine.
Et d'Olivier Dutour, mon associé. Tine.